24h en temps universel, vous écoutez toujours Radio France Internationale, 5h à Paris. Et Marion Cazeneuve est avec vous pour la prochaine demi-heure. Bonjour Marion.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Votre journal d'abord.
En Syrie, les efforts des autorités de transition pour un retour au calme. Damas a annoncé la fin des combats dans l'Ouest contre des fidèles du président déchu. Des combats qui ont viré au massacre de civils, plus de 1000 civils tués, en majorité alaouites. L'Arabie Saoudite accueille aujourd'hui des discussions entre une délégation ukrainienne et une délégation américaine sur la guerre en Ukraine, alors que la capitale russe vient d'essuyer une attaque massive de drones. L'ONU s'inquiète de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, où le M23, soutenu par le Rwanda, poursuit son avancée. Et puis les Groenlandais appelés aux urnes aujourd'hui pour des législatives, scrutin marqué par les ingérences du président américain. Après 4 jours de violences, de massacres dans l'ouest syrien, les autorités annoncent la fin de l'opération militaire contre des fidèles de Bachar al-Assad dans cette région bastion de la communauté alaouite dont est issu le président déchu. En 4 jours de combat, donc, plus de 1000 civils ont été tués, en grande majorité des alaouites qui ont déploré des attaques ciblées contre eux, des exécutions sommaires. Le président par intérim Ahmed al-Shara promet des enquêtes. Il promet également de punir les responsables de ces tueries, mais ça ne suffit pas à rassurer la communauté alaouite, Muriel Paradon.
Il nous envoie ce message audio de la province de Latakié. Ce Syrien alaouite, dont nous préférons taire l'identité, dit ne pas faire confiance au président Ahmed al-Shara, qui, rappelle-t-il, est issu des groupes islamistes radicaux.
For al-Shara, we don't trust.
Concernant al-Shara, nous ne lui faisons pas confiance, c'est sûr. Il dit des choses, mais ne les applique pas. Et nous connaissons son passé. Tout le monde le connaît. Après toutes ces années et tout ce qu'il a fait, après tout ce que nous endurons aujourd'hui, les alaouites ne lui feront pas confiance pour mener une enquête.
Un autre Syrien alaouite que nous avons joint par téléphone et qui vit aujourd'hui en France a perdu 5 membres de sa famille dans un village non loin de Hama. Pour lui, la défiance va au-delà des nouvelles autorités syriennes.
Les discours de haine envers les alaouites se sont répandus dans tout l'espace public. Par exemple, dans les mosquées, sur des pages Facebook. J'ai reçu un message audio de mosquée disant « Si vous voulez vous venger des alaouites après ces 15 dernières années, c'est le moment de le faire. »
Par peur, beaucoup d'alaouites ont fui leur village du nord-ouest de la Syrie. Plusieurs milliers d'entre eux se sont réfugiés au Liban voisin.
Muriel Paradon. Le nouveau pouvoir syrien avait donc envoyé plusieurs milices alliées pour mater les insurgés pro-Assad dans l'ouest du pays, ce qui s'est transformé, on l'a dit, en bain de sang avec le bilan qu'on connaît, plus de 1000 civils tués. Ces milices sont reconnues pour leurs méthodes violentes, leur indiscipline. Certaines ont été envoyées par la Turquie. Pour autant, Ankara n'a rien à voir avec ces massacres pour l'analyste de France 24, Wassim Nasr.
Le chaos ne profite pas à Ankara. Ankara cherche à stabiliser l'actuel pouvoir syrien parce qu'il lui est pas hostile et parce que à travers ce pouvoir syrien, elle espère régler la problématique du YPG, donc de la branche syrienne du PKK à ses frontières. Donc Ankara n'a aucun intérêt à semer le trouble aujourd'hui en Syrie. L'acteur qui a absolument intérêt à semer le trouble, c'est l'acteur qui a perdu la partie et donc c'est l'Iran. Et donc c'est à travers l'Iran que ces anciens du régime ont été, disons, mobilisés. Tous les acteurs régionaux, et en premier lieu la Turquie, ont intérêt à ce que se stabilise, sauf l'acteur qui a perdu la partie, l'Iran.
Et l'analyste Wassim Nasr, interrogé par Théo Renaudon, la Turquie a dit d'ailleurs qu'elle continuerait d'apporter, je cite, « tous les soutiens possibles à la Syrie ». Les autorités, en tout cas, ont donc annoncé la fin des combats dans l'Ouest contre les fidèles d'Assad. Les combats vont aussi cesser avec les Kurdes des FDS, les forces démocratiques syriennes. Un accord a été trouvé entre ce groupe armé et la présidence syrienne. L'accord affirme que la communauté kurde est une composante essentielle de l'État. Le chef des FDS estime qu'il s'agit d'une vraie occasion pour construire une nouvelle Syrie. Le calme n'est pas revenu pour autant dans le pays puisqu'un média officiel fait état de frappes israéliennes dans le sud. L'agence Sanaa rapporte 17 frappes contre des positions de l'ancienne armée syrienne dans la région de Dera. La nuit troublée à Moscou par une attaque de drones massive. Les autorités russes disent avoir intercepté cette nuit 58 drones. Il est rare que la capitale du pays soit visée depuis le début de la guerre en Ukraine. Cette guerre sera au cœur des discussions aujourd'hui en Arabie Saoudite. Une délégation ukrainienne rencontre une délégation américaine à Jeddah, sur les bords de la mer Rouge. Elles discuteront d'un plan de cessez-le-feu partiel, mais surtout vont renouer le dialogue après la désastreuse altercation qui avait opposé les dirigeants des deux pays à la Maison Blanche. C'était le 28 février dernier, Daniel Valo.
Ce sera la première fois depuis la querelle du Bureau Oval que des représentants des deux pays vont officiellement se rencontrer. Côté ukrainien, il y aura notamment Andriy Yermak, le chef de l'administration présidentielle, et les ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Côté américain seront présents Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, et Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale. Selon l'agence France Presse, la délégation ukrainienne va apporter une proposition de trêve avec la Russie dans les airs et en mer, une option de cessez-le-feu qui serait facile à mettre en place et à surveiller. L'Ukraine espère ainsi convaincre les États-Unis de revenir sur le gel de leur aide militaire, signal encourageant à la veille de la rencontre. Marco Rubio affirmait avoir bon espoir d'avancer sur cette question. Mais au-delà des éventuels résultats concrets de la réunion de Jeddah, l'enjeu sera bien d'effacer autant que possible le souvenir désastreux du 28 février dernier et de réparer la relation très abîmée entre l'Ukraine et son principal allié.
Daniel Valo évoquait le gel de cette aide américaine. Donald Trump voulait, en échange de cette aide, avoir un accès aux minerais rares présents dans le sous-sol ukrainien. On ne sait pas si cet accord sur les minerais sera abordé à Jeddah. En tout cas, le sous-sol congolais intéresse aussi Washington. Les États-Unis confirment que des discussions sont en cours pour un partenariat avec Kinshasa sur les minerais rares, des minerais qui se trouvent dans l'est de la RDC, actuellement occupés en grande partie par le M23 soutenu par le Rwanda. Le M23 poursuit d'ailleurs son avancée et consolide son emprise sur le territoire de Masisi. Dans ce contexte, le président Félix Tshisekedi a reçu l'envoyé spécial de l'ONU dans la région des Grands Lacs, Huangxia, et qui est donc en tournée dans les pays de la région. Et il reste convaincu que l'application de la récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU reste importante pour la désescalade et la paix.
Le président Tshisekedi a bien voulu nous consacrer beaucoup de temps pour m'a livrer sa lecture sur la situation de crise dans la région des Grands Lacs, surtout à l'est de la RDC. Nous avons une situation de crise très inquiétante avec les dernières évolutions qui a aggravé encore davantage l'instabilité dans la région des Grands Lacs, notamment à l'est de la RDC. Heureusement, la communauté internationale, les communautés sous-régionales, l'Union africaine sont plus mobilisées. Aujourd'hui, il y a cette résolution 2773. Comment la mettre en application? Comment reprendre rapidement le processus de Luanda et le processus de Nairobi? Et c'est là l'enjeu immédiat à relever pour désescalader la tension et après mieux gérer les enjeux à moyen et à long terme.
La résolution évoquée par l'émissaire de l'ONU, Huangxia, a été votée le 21 février et condamne l'offensive du M23 avec le soutien des forces de défense rwandaises et exige leur retrait immédiat. On parlait des sous-sols congolais et ukrainiens, celui du Groenland intéresse grandement aussi les États-Unis. Dès son arrivée au pouvoir, le président Donald Trump a d'ailleurs affirmé qu'il obtiendrait d'une manière ou d'une autre ce territoire autonome danois. Et c'est dans ce contexte d'ingérence américaine que se déroulent aujourd'hui des élections législatives. Et les Groenlandais qui restent attachés à leur indépendance, Otilia Ferré.
Nous ne voulons être ni américains ni danois, c'est ce qu'a rétorqué le premier ministre groenlandais aux nouvelles menaces de Donald Trump. Selon un sondage, 85% des Groenlandais n'ont aucune intention de faire partie des États-Unis. Kira, étudiante de 25 ans, fait partie de cela. Voici ce qu'elle en pensait sur place à Nuuk, la capitale, en janvier dernier.
Tout ça, ça nous fait bien rire, mais nous ne sommes pas des objets. On ne veut pas être doublement colonisés, on veut être nous-mêmes. Et le moment est venu.
Les débats autour de ces élections tourne bien entendu autour des relations à entretenir ou non avec les États-Unis, mais l'enjeu principal, c'est l'indépendance du territoire qui est sous tutelle danoise depuis 1721. Ce désir d'indépendance, Donald Trump est venu, sans le vouloir, le renforcer. Kuba Nicholsen a 40 ans, elle est candidate aux élections sous la bannière de Naleraq, le parti indépendantiste, et elle se réjouit à moitié de la situation.
L'intérêt manifesté par Trump pour le Groenland est comme un moment de grande prise de conscience. Les Groenlandais commencent vraiment à se rendre compte qu'ils ont beaucoup plus de valeur qu'ils ne le pensaient. Je vois ça comme une chose très très positive.
En temps normal, ces élections passeraient totalement sous les radars, mais cette fois-ci, elles sont sous haute surveillance et il se pourrait aussi que les Inuits soient appelés à voter de nouveau lors d'un référendum sur l'indépendance de leur territoire en avril, comme l'avait annoncé en janvier leur premier ministre. Otilia Ferré, Stockholm, RFI.
RFI 4h10, en temps universel midi 10, à Manille, l'ancien président philippin arrêté pour crime contre l'humanité. Rodrigo Duterte vient d'être interpellé, il venait d'atterrir à l'aéroport de Manille et était visé par un mandat de la Cour pénale internationale. Rodrigo Duterte avait lancé dans le pays une guerre meurtrière contre le trafic de drogue. Des milliers de Philippins ont été tués. Il a par le passé défendu régulièrement sa répression anti-drogue et a nié avoir ordonné à la police d'abattre des suspects hors du cadre de la légitime défense. En France, une enseignante poursuivie pour harcèlement moral sur une élève, Evaël, 11 ans, qui s'est suicidée en 2019. Pour l'accusation, ce harcèlement, les humiliations de la professeure sur son élève auraient favorisé le passage à l'acte d'Evaël. Au premier jour du procès, les témoins ont défilé à la barre, des témoins et également les parents de la collégienne. Compte rendu d'audience, Baptiste Coulon.
C'est le père d'Evaël qui est le premier à s'avancer à la barre pour décrire avec pudeur son enfant, atypique et précoce pour son âge. Mais quand Evaël arrive en classe de 6e, sa professeure de français lui refuse d'emblée un aménagement médical et l'isole au fond de la classe malgré ses problèmes de vue. Son père raconte alors sa découverte 2 mois plus tard, cette tache noire sur une poutre du domicile qu'Evaël a tenté d'incendier. Un appel au secours, dit-il, et une première tentative de suicide. Un jour de février, Evaël vit la pire journée de sa vie, explique à son tour sa mère. Elle est humiliée devant ses camarades, forcée par sa professeure d'expliquer pourquoi elle se dit harcelée. Où est la bienveillance, demande son père, convaincu que l'enseignante a initié le harcèlement de sa fille avant que les élèves ne prennent le relais. C'est lui qui la découvre 4 mois plus tard, pendue dans sa chambre. 6 ans après les faits, les parents d'Evaël attendent des explications de la professeure entendue aujourd'hui, Delphine Meillet est leur avocate.
Les témoignages sont multiples, concordent. Elle n'a cessé d'humilier des poignées d'élèves tous les ans. Ces humiliations ont fini par tuer une des élèves, donc nous attendons qu'elle bouge sur l'échiquier de sa défense.
Car depuis 6 ans, l'enseignante n'a montré aucune inflexion. Elle a toujours nié les faits de harcèlement.
Et aujourd'hui, l'enseignante doit témoigner à la barre. Elle risque jusqu'à 3 ans de prison. Le pape François va de mieux en mieux. Les améliorations de son état de santé se sont consolidées, a fait savoir hier le Vatican. Son pronostic n'est plus réservé. Le souverain pontife est hospitalisé depuis bientôt 1 mois dans une clinique de Rome prise en charge pour une double pneumonie. RFI 5h13 à Paris, 4h13 en temps universel. On reste ensemble pour un tour de l'actualité internationale avec nos chroniques et nos reportages.
Marion Cazeneuve.
On ira d'abord à Liverpool, en Angleterre. En football, les Reds accueillent le PSG en 8e de finale. Retour de la Ligue des Champions et les supporters anglais ont hâte de voir le jeu de jambes de Mohamed Salah, l'Égyptien devenu l'idole des supporters. En Argentine, un procès très attendu démarre aujourd'hui sur la mort de Diego Maradona, légende du foot. 17 professionnels de santé sont jugés, accusés de négligence. Négligence qui aurait conduit à sa mort à 60 ans en 2020. De nouvelles aventures pour le commissaire Kwame, détective ivoirien acharné. On feuilletera cette bande dessinée avec son autrice, Marguerite Aboué, qui est notre invitée culture. Dans le conseil santé aujourd'hui, les liens entre solitude et troubles psychiques. On fera ensuite un tour dans notre playlist musicale avec nos dernières pépites. Et puis dans moins de 20 minutes, sur RFI, le retour de l'actualité africaine. pas le droit à l'erreur pour les Parisiens. En football, le PSG est condamné à l'exploit ce soir face à Liverpool s'il veut se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. Au match aller, ils avaient perdu 1-0 à domicile, mais avaient pourtant été convaincants même au-dessus des Anglais. Des Anglais dont l'arme secrète, la star Mohamed Salah, ou Mo Salah, avait été bien discret. Mais ce soir, il sera bien l'homme à suivre chez les Reds lors de ce match retour. Au fil des ans, l'Égyptien a mûri et est devenu le chouchou de ses supporters rencontrés par Cédric de Oliveira.
À la simple évocation de son nom, le visage de Phil s'est illuminé instantanément. Ce supporter quinquagénaire déborde d'admiration pour Mohamed Salah.
Oh, absolument. Il y a des joueurs comme ça, c'est un privilège de les avoir, de les regarder. Il ne faut pas les perdre des yeux parce qu'ils sont capables, comme ça, sur un geste, de faire quelque chose de spécial avec le ballon.
Et il en a fait des choses spéciales, l'Égyptien, cette saison. 32 buts et 22 passes décisives alors que le mois de mars débute à peine. Bilan qui impressionne tout le monde et notamment son coéquipier Diogo Jota.
C'est exceptionnel. Je me demande si les gens n'ont pas arrêté de compter parce qu'il fait vraiment des choses incroyables. Il fait la différence. Évidemment, ça nous aide énormément. C'est bien d'avoir un joueur comme lui dans l'équipe.
Près de 8 ans après son arrivée, près de 400 matchs plus tard, Mo Salah est déjà entré dans l'histoire du club. Matt Addison est journaliste pour le site spécialisé Liverpool.com et selon lui, l'Égyptien a fait du chemin.
Quand il est arrivé, il était très individualiste. Il ne voulait que marquer des buts. Il a changé en tant que joueur. Je pense qu'il est moins égoïste. Il a aussi pris une dimension différente dans son propre pays, même sur le continent africain. C'est quelqu'un qui a plus de pression sur les épaules que la plupart des autres joueurs. Il a toujours eu à gérer ça.
À 32 ans, Salah semble désormais complètement épanoui à Liverpool, où il a trouvé un cadre idéal, comme l'explique Neil Atkinson, qui est présentateur du podcast The Anfield Wrap.
Salah a une identité complexe. Il y a sa foi, il y a sa nationalité, il y a son continent, mais il a construit beaucoup de choses et passé des moments en charnière de sa vie ici, comme la naissance de ses enfants. C'est un vrai Liverpoolien maintenant, et il a montré tant d'amour et de dévotion aux supporters. C'est un joueur de Liverpool parce qu'il aime désespérément le club.
Ça n'empêche pas la star de faire craindre le pire à ses supporters depuis plusieurs mois. En fin de contrat en juin prochain, Salah n'a toujours pas trouvé d'accord avec la direction des Reds pour prolonger. Interrogé par la télévision anglaise en janvier dernier, il a laissé planer le doute sur son avenir.
Et oui, il reste 6 mois. En tout cas, ce sont mes derniers mois. Il n'y a pas de progrès. On n'a pas avancé dans les négociations. On doit juste patienter et on verra.
Dans une ville où le visage de l'Égyptien a été reproduit sur plusieurs fresques, la question d'un départ terrifie les supporters des Reds. John ne veut pas y penser.
C'est le football. Parfois, tu perds ton joueur favori, mais ça nous briserait le cœur. Ça peut être très, très difficile. C'est un phénomène et il pourrait bien être le prochain Ballon d'Or.
Ce serait la consécration individuelle suprême pour Salah qui veut déjà terminer cette saison en fanfare, remporter la Première Ligue et pourquoi pas la Ligue des Champions. Cédric de Oliveira, Liverpool, RFI.
Cédric de Oliveira, Liverpool-PSG, début de la rencontre à 20h temps universel, à suivre en direct et en intégralité sur l'antenne de RFI à partir de 19h40 temps universel. Les autres affiches de ce 8e de finale retour, c'est Inter Milan, Feyenoord Rotterdam. Il y aura aussi ce duel 100% allemand entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. Et le Barça, lui, jouera contre le Benfica Lisbonne. La pelouse du Barça, Diego Maradona l'a bien connue, celle de Naples aussi. L'Argentin, légende du football, est mort il y a 4 ans, il avait 60 ans. Et aujourd'hui s'ouvre un procès, justement le procès sur sa mort. 7 professionnels de santé sont poursuivis pour homicide par négligence. Pour en parler ce matin, nous retrouvons notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience. Le procès devrait durer plusieurs mois, Théo. 120 témoins vont se relayer à la barre pour tenter de faire la lumière sur la mort de l'icône argentine.
Oui, reconstituer les événements pour essayer de savoir qui prenait les décisions sur la santé de Diego Maradona, à quel point a-t-il été isolé de sa famille, et surtout pour répondre à cette question, la mort de l'idole argentine aurait-elle pu être évitée? Oui, selon le parquet, qui poursuit les membres de son équipe médicale pour homicide simple avec dol éventuel, c'est-à-dire pour négligence volontaire dont il savait qu'elle pouvait entraîner la mort.
Et que sait-on aujourd'hui sur la mort de Diego Maradona?
Alors ce que l'on sait, c'est que le 25 novembre 2020, Diego Maradona est retrouvé mort d'une crise cardio-respiratoire sur son lit médicalisé à Tigré, au nord de Buenos Aires. L'ancien capitaine de l'Albi Céleste était en convalescence à domicile depuis 2 semaines, après une neurochirurgie pour un hématome à la tête. Il souffrait par ailleurs d'une série de pathologies liées à une vie d'excès, avec une cirrhose, des insuffisances rénales et cardiaques, des troubles neurologiques et des addictions à l'alcool et aux psychotropes.
Et qu'est-ce qui est reproché à son équipe médicale, Théo ?
Eh bien, en 2021, un rapport d'expertise médicale accablant a estimé que Diego Maradona avait été, je cite, « abandonné à son sort par son équipe médicale, qui aurait commis une série d'improvisations, de fautes de gestion et de manquements ». Selon le rapport, le traitement que Diego Maradona recevait était inadéquat, déficient et imprudent et aurait provoqué une lente agonie. Fin de citation. Les membres de l'équipe médicale, composée entre autres d'un neurochirurgien, d'une psychiatre, d'un psychologue, d'un médecin clinique et d'infirmiers, se retranchent tous derrière leur spécialité et se renvoient la responsabilité les uns les autres.
Et dans quelle atmosphère s'ouvre ce procès fleuve ?
Alors, il y a beaucoup d'attentes ici en Argentine avant ce procès qui a été repoussé à plusieurs reprises. On se souvient encore du choc provoqué par sa mort et de ces dizaines de milliers de personnes inconsolables venues lui rendre un dernier hommage lors de la veillée funèbre à la Casa Rosada, le palais présidentiel. Plus de 4 ans après sa mort, Diego Maradona continue d'être omniprésent dans le cœur des Argentins et bien souvent sur leur corps aussi avec des tatouages. On le retrouve sur d'immenses fresques murales et bientôt son corps sera transféré dans un grand mausolée en construction au cœur de la capitale argentine.
Théo Conscience, correspondant de RFI à Buenos Aires. L'invitée culture de RFI ce matin est l'autrice Marguerite Abouet. Elle signe une bande dessinée avec Donatien Marie sur l'enquête d'un policier ivoirien venu en France pour sortir sa nièce d'un trafic d'êtres humains. C'est le tome 3 des aventures du commissaire Kwame, incorruptible et irascible. Marguerite Abouet est au micro de Sophie Torloutin.
Marguerite Abouet, bonjour.
Bonjour Sophie.
Le nouvel album de la série Commissaire Kwame vient de paraître. Le titre est très fleuri, est-ce que vous pouvez me le rappeler ?
On ne fait pas de feu sous un arbre en fleurs.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'on ne règle pas les problèmes tout seul.
Et de fait, le commissaire Kwame va avoir besoin d'aide dans ce nouvel album qui commence à Abidjan, qui commence avec la sortie de la MACA, grand centre pénitentiaire d'Abidjan, d'un narcotrafiquant nigérian, d'origine nigériane, qui est métissé. Déjà, Marguerite, est-ce que vous pouvez m'expliquer, vous avez dû faire une enquête, non, sur le narcotrafic ?
Alors, je me suis beaucoup renseignée, mais en même temps, quand je vais à Abidjan, il y a tellement de... On appelle ça des wanches. C'est un peu une sorte de favela, au fin fond soit de pont, où il n'y a que des laissés pour compte en fait. Ce sont des personnes qui sont complètement droguées, il y a des femmes, il y a des prostituées, il y a des mamans avec leurs enfants en fait. Et ça cohabite avec, même à Cocody, un quartier assez chic, et vous avez ces belles maisons, et puis juste en dessous, c'est cette zone-là où plus personne n'y va. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et donc, pour moi, c'était pas en tout cas normal que les policiers... voit tout ça et ne fait rien. Donc j'ai commencé à me documenter là-dessus et entre les narcotrafiquants, entre les policiers
corrompus.
Voilà, corrompus. Je me suis dit bon, allez, enquête un peu là-dessus parce que il y a toute une jeunesse qui fréquente ces endroits. La moitié en tout cas de cette jeunesse est complètement accro à ces drogues de rue.
Donc le commissaire Kwame commence par essayer de retrouver ce narcotrafiquant en fuite. En fait, on le retrouve assez vite, il est mort. Et puis là, votre album, Marguerite Abouet, nous emmène encore ailleurs, même si c'est lié, en fait.
Oui.
Parce que la nièce du commissaire Kwame a disparu et il va aller jusqu'en France pour essayer de la retrouver.
Il va aller jusqu'en France. Alors, tout ce milieu de narcotrafiquants va très loin, en fait. Parce que, en même temps qu'ils fabriquent cette drogue du pauvre, comme ils appellent, il y a une partie de cet argent qui alimente tous les réseaux de prostitution. En fait, c'est la traite des femmes, tout simplement. Et donc, le commissaire Kwame, sa nièce disparaît, en fait. Elle se retrouve aussi dans ce milieu de trafic de femmes.
Et vous vous êtes amusée, si je puis dire, Marguerite Abouet, à situer cette partie de l'album à Angoulême?
Oui, alors parce que il y a 2 ans ou 3 ans, lors de la sortie du commissaire Kwame 2, lors d'une dédicace, j'étais avec Donatien Marie, le dessinateur, il y a le commissaire d'Angoulême qui fait la queue pour avoir une dédicace, qui nous dit qu'il adore le commissaire Kwame. C'est tellement déjanté, tellement... en même temps un peu proche quand même de ce qui se passe ici. C'est la manière dont ils résolvent les enquêtes qui diffèrent complètement. Et donc, on se lie d'amitié avec ce commissaire et puis il nous fait visiter le commissariat d'Angoulême. Donc, je trouvais ça intéressant de faire justement se confronter les deux systèmes.
L'album Marguerite Abouet se termine sur un cliffhanger, comme on dit. Il y a du suspense, donc vous êtes déjà dans l'écriture, vous avez déjà terminé le tome suivant ?
Non, mais j'ai tellement mis de choses dans ce tome 3 entre ce narcotrafiquant qui a une revanche à prendre, parce que pour lui, il a aidé le commissaire à attraper ce fameux métis qui sort de prison. Il se dit encore que ce commissaire-là dépasse les bornes, d'où aussi tout le titre. Donc en fait, je crois que dans le prochain, il y aura plein de suspense.
Marguerite Aboué, merci.
Merci.
On ne fait pas de feu sous un arbre en fleurs, le dernier tome des aventures du commissaire Kwame, publié aux éditions Gallimard.
Le conseil santé avec Soum Assurance.
Et avec Caroline Paré, ce matin, on parle des liens entre solitude et troubles psychiques.
Anne-Victoire Rousselet, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute spécialisée en thérapie comportementale et cognitive. Solitude choisie, solitude subie. Est-ce que l'isolement, la distance sociale constitue une condition favorisante dans le développement de certains troubles psychiques?
Tout à fait. Alors, conséquence ou cause, l'isolement peut favoriser l'émergence de troubles comme l'anxiété, comme la dépression, mais également majeure certains troubles comme dans la schizophrénie, dans la bipolarité, dans tous ces troubles plus chroniques où finalement on se sent tellement singulier qu'on va avoir tendance à couper les relations parce qu'on ne se sent pas ressembler aux autres et donc finalement l'isolement va être majoré par le trouble. Donc cause ou conséquence, l'isolement en tout cas entraîne et majore les difficultés psychiques.
C'est pour ça qu'en santé mentale, il est important de demander aux patients où en sont ces interactions sociales?
Évidemment. C'est indispensable de demander où en sont les interactions sociales. C'est ce qu'on fait au décours de l'évaluation d'ailleurs. Combien d'amis avez-vous? À quelle fréquence les voyez-vous? Et la famille? Quelles relations avez-vous? Quel genre d'échange avez-vous? Puisqu'il y a aussi la question de la profondeur des échanges. On peut très bien se sentir entouré et finalement ne parler de pas grand-chose, à peine son emploi du temps. Donc on va évaluer évidemment ces interactions sociales qui sont un des piliers d'une bonne hygiène de vie et condition d'une bonne santé mentale.
Merci Anne-Victoire Rousselet. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on parle des plaies, coupures, brûlures, éraflures, superficielles ou profondes. La localisation, l'étendue des plaies vont en déterminer le degré de gravité. Comment savoir quand consulter, dans quel cas la greffe est-elle envisagée et surtout comment favoriser une bonne cicatrisation? Priorité Santé à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
À tout à l'heure Caroline. Dans quelques minutes, c'est le retour de l'actualité africaine sur RFI. Et nous, on se quitte en musique, on fait un tour dans la playlist de RFI, on écoute Nbendia, un titre d'Arat Kilo avec Mamani Keita.
Hey Mamani, you alright?
Hey Mike, comédie.
Nbendia, Arat Kilo, on est à l'aise.
Nbendia, Nbendia la foro à Sanouda.
Like a Commodore, keep it easy like a Sunday morning. Fair girls, red pompadour. When I chill offshore. I sleep eight despite the war. That way I can fight some more. Fight for peace, seeps out my pores. I put in work before the storm.
Yeah.
Lay back like a Commodore. Keep it easy like a Sunday morn. Drake Gill's red pompadour. When I chill offshore. I sleep eight despite the war.
Bendia, le titre d'Arat Kilo avec Mamani Keita, titre que vous retrouvez dans notre playlist musicale du mois, à retrouver sur notre site RFI.fr ou bien directement sur YouTube. Dans quelques secondes, sur RFI, c'est le retour de l'actualité africaine.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.